Hello, bienvenue au Comedy Nerd Podcast. Je m'appelle Rachel Ely, je suis une humoriste canadienne qui habite en Ottawa. Je suis tellement excitée que vous avez décidé d'écouter mon podcast. Je sais qu'il y a des personnes au Canada qui écoutent, mais je viens juste de savoir qu'il y a des personnes aussi aux États-Unis, en France, Allemande, Turquie, Espagne et même en Zambie et Sénégal. Alors, merci pour choisir ce podcast. Et si vous aimez écouter ce podcast, j'espère que vous allez considérer partager cette show avec peut-être un ami, un autre humoriste que vous connaissez, quelqu'un dans ta famille. Come on, be generous, people. Aussi, vous pouvez nous donner un review. Ça serait bien apprécié. Et aussi, j'ai un website si vous voulez savoir les shows que je fais partout au monde. Je suis supposée de venir en Europe en février, on va voir avec la pandémie, mais ça, c'est le plan. Aussi, je fais le Festival d'humour à Gatineau en septembre. Et en août, je vais faire mon show Lady Rash, don't Google it, au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal. Mais toute cette information, c'est sur mon website, rachelely.com. Aussi, si vous voulez me donner un peu de feedback, considérez m'envoyer un courriel à crowningmonkey@yahoo.ca. C'est C-R-O-W-N-I-N-G, monkey@yahoo.ca. Merci pour venir à ce podcast. Aujourd'hui, c'est épisode 4 de Comedy Nerd et je parle avec humoriste Coco Béliveau. Merci. Ciao. Sure you can handle. We be faster than Django. Coco!
Hello!
Ça va?
Ça va bien? Toi?
Oh, pas mal! Pas mal! Je suis un peu sweaty, mais...
Yeah, moi aussi, j'ai été hiking à matin.
Oh yeah? Où est-ce que t'as allé?
Parc d'Oka, Oka.
Tout le monde commence à sortir un petit peu, hein?
Yeah. J'ai pas l'habitude d'aller marcher dehors ou rien comme ça dans la nature, je veux dire, là, mais...
Non?
Là, non, mais là, je l'ai faite, là. Je suis indoorsy.
Oh yeah? Well, bienvenue à Comedy Nerd.
It's great to be here.
Est-ce qu'on s'est rencontrés au Art Loft? Est-ce que c'était...
Je pense que oui, moi.
Oui?
Je suis pas mal sûre.
OK. Parce que...
T'avais pas fait de la magie, je pense?
Oui, j'ai fait
c'est du... C'est ça, oui, oui. Je m'en rappelle, tu sortais un gros...
Tu sortais quelque chose de mon sac.
Oui, je m'en rappelle. J'avais bien aimé ça.
Et tout le monde était comme, Coco Béliveau, like, she's coming. She's coming, she's so good. And I didn't even know who you were, mais c'était parce que je travaille en anglais tout
oui,
le temps.
Oui, puis j'en fais pas beaucoup en anglais dans le sens où, pour moi, je parle en... Tu sais, parler en français, c'est vraiment important de tu sais, au niveau point de vue, c'est important de préserver notre langue, toutes ces affaires-là. Oui. Puis ma mère, en grandissant, était tout comme, c'est important, là. Faut pas trop faire des affaires en anglais parce que tu seras plus capable de parler français. Oh, fait que j'essaie toujours de, comme, faire moins d'affaires en anglais. Mais j'en fais pareil parce que c'est sûr que j'aime ça, là.
Est-ce que tu penses que c'était juste ta famille, ta mère, ou est-ce que c'était presque tous les autres familles que tu connaissais à Nouveau-Brunswick qui parlaient de ça?
Que, puisqu'on est une minorité linguistique, comme au Québec, c'est une réalité qui est au Québec, qu'il y avait au Québec aussi, j'imagine, là, ou peut-être à Montréal. En tout cas, c'est sûr que les autres, ils ont la loi 101, puis ça, ça protège tout, c'est une province francophone, mais nous autres, on est une province bilingue, puis c'est majoritairement anglophone, puis il y a eu la déportation des Acadiens, puis tout ça qui a fait que les Anglais nous ont mis sur des bateaux, là, puis ils ont dit, on prend ce qui est à vous, puis vous autres, on vous envoie aux États-Unis. Fait que là, c'est ça que ça fait que les gens sont vraiment comme... Faut vraiment qu'on continue à parler français. C'est très important. Puis moi, quand j'étais jeune, je voulais juste faire des affaires en anglais, que je trouvais ça cool. Mais en grandissant, j'ai commencé à me dire, OK, il faut que je prenne ma responsabilité.
Oui, c'est intéressant parce que moi, j'étais élevée en Ottawa et mon papa était francophone d'Haïti. Alors, on parlait pas beaucoup français et à la maison, mais j'étais à une école complètement en français jusqu'à secondaire 2. Mais parce que j'étais tout proche de Gatineau, ouais. Tout le monde était bilingue, on parlait anglais, français, c'était... Mais dans ma tête, jusqu'à, je pense que j'avais 26 ans, j'ai réalisé qu'il y avait des francophones hors de Québec. Parce que j'ai fait une production de théâtre avec Théâtre de la 16e de Vancouver. Mm-hmm. Et on a fait une tournée de Manitoba, Alberta et Saskatchewan.
et on faisait des tournées dans des écoles francophones et j'étais comme waouh, ça c'est, j'étais vraiment choquée et c'était, j'étais déçue aussi de, ça m'a pris 26 ans pour vraiment savoir qu'il y avait des francophones hors de Québec.
Ouais, c'est sûr, là. Même nous autres, on n'était pas vraiment exposés aux autres francophones. Je pense même pas que je savais que le Québec existait pour la majorité de ma vie, fait que j'avais pas conscience qu'il y avait une province qui était, tu sais, moi j'étais pas dans la bataille des langues ou quoi que ce soit quand j'étais plus jeune, je parlais ce que je parlais, puis j'étais pas au courant qu'il y avait des provinces qui étaient anglophones ou des provinces qui étaient francophones. Moi, dans ma tête, les gens, ils vivaient au Canada, puis tout le monde vivait un peu dans le bilinguisme. Tout pour dire que je dois avoir compris qu'il y avait une place où c'était en français tout le temps, là, majoritairement. Probablement autour du même temps que toi, là, dans ma vingtaine.
Mais pour toi, ta communauté, est-ce que tout le monde parlait français et anglais?
Oui, absolument. Ben, tu sais, moi, j'ai fait toute ma scolarisation en français, mais quand on était dans la récréation ou quand je parlais avec mes amis, je parlais tout le temps en anglais. Fait que j'apprenais en français, mais je socialisais en anglais. Au point où, tu sais, moi, il n'y avait pas de distinction. Je pense qu'au début, j'écrivais mes jokes en anglais puis je devais les traduire en français parce que j'étais tellement habituée de faire des blagues avec mes amis en anglais que ça sortait pas naturellement en français. Puis je trouvais même que le français, c'était une langue qui est moins drôle parce qu'elle est moins efficace puisqu'il y a plus de mots pour exprimer une même idée. Puis c'est vrai qu'elle est moins efficace, mais il y a... Je serais plus prête à dire qu'elle est moins drôle. Je pense pas qu'il y en a une qui est plus ou moins drôle, dans le fond. Mais je trouve que le français, puisqu'il y a plus de mots pour dire la même chose, il y a des précisions qui sont vraiment le fun à jouer avec, que j'ai trouvé un plaisir à chercher dedans. Mais comme au début, je pense que c'était presque une difficulté parce que j'avais vraiment l'habitude de tout le temps parler en anglais. Tout le temps, juste pour aucune raison précise.
Mais ça semble que les punchs en anglais, c'est... Moi, je trouve ça fait juste 2 ans que je le fais en français, mais je trouve mes punch en général, c'est difficile à vraiment trouver la même punch.
Oui, non, ça, c'est sûr.
En français, mais je trouve pour faire un setup, je trouve beaucoup de différents adjectifs et parce que c'est, on peut décrire et être un peu plus dans le setup avec français, ça peut vraiment, les deux aident. J'ai parlé beaucoup avec Mike Patterson de ça que Quand tu commences à travailler dans les deux langues, ça va aider l'autre langue.
Oui, absolument. Puis c'est pour ça que j'ai jamais vraiment abandonné non plus ce côté-là complètement. Parce que, veux pas, ça fait partie de toute ma banque de référents. Toute la culture que j'ai grandi avec vient du côté plus anglophone parce que j'écoutais pas du stand-up en français, j'écoutais du stand-up en anglais. Mes humoristes préférés sont anglophones. Fait que je pouvais pas vraiment ignorer cette partie-là de moi-même quand je suis arrivée non plus. Puis c'est pour ça que je continue d'en faire. Puis Mike Ward, il m'avait parlé à un moment donné en me disant que traduire les numbers, ça t'aidait à trouver des nouvelles jokes. C'est que je m'étais dit, OK, ben là, je vais aller dans une soirée anglaise. Puis moi, j'ai jamais pris un number puis je l'ai comme traduit sur papier. J'allais sur scène puis je le traduisais à mesure que j'avançais dedans, là. J'essayais de réfléchir s'il y avait de quoi qui pouvait pas se traduire. Puis en général, j'écris pas des jeux de mots ou des affaires comme ça. C'est plus situationnel. Fait que je rentrais juste sur scène puis je le disais en anglais puis ça m'aidait à me sortir de... Tu sais, des fois, il y a une cristallisation qui se fait quand t'es en train d'écrire ou t'es plus capable de le voir autrement ou de le regarder autrement. Les morceaux sont comme ça. T'es comme, je pourrais jamais bouger ça. Je pourrais pas faire ça. Je sais pas où ce que, tu sais, comme, c'est devenu tellement comme pogné que tu peux plus jouer dedans. Puis, en allant le faire en anglais, ça me permettait de juste, comme, te changer les mots parce que veux pas, c'est plus la même langue, c'est plus les mêmes mots. Fait que là, tout à coup, je me mets à improviser un peu plus l'énergie. Tu sais, on a une autre identité dans une autre langue aussi.
Complètement.
On n'est pas la même personne. Comme, je considère que je suis probablement plus loud en anglais. Je suis plus, je sais pas, j'ai plus d'attitude, j'ai l'impression. Je pourrais pas te dire qui je suis en anglais, mais je suis moins, j'ai définitivement plus d'attitude qu'en français. En français, je suis un peu plus cutie, je pense. Mais ça vient changer, ça vient apporter un autre ton. Puis à partir de là, tu sais, c'est sûr que ça évolue la création parce que ça te permet de le regarder à travers d'autres perspectives.
Mais tu as dit que tu faisais rire en anglais et après tu as commencé à faire en français. Dans quelle façon est-ce que tu faisais rire en anglais? Est-ce que tu étais vraiment physique? Est-ce que tu peux même souvenir ton style un petit peu quand tu faisais rire tes amis? Et quand tu dis ça, est-ce que tu veux dire à l'école comme
secondaire? Oui, comme à l'école, à l'université. Avec tous mes amis, je parle en anglais. Avec ma famille, je parle en anglais. C'est sûr qu'à la maison, même si on est une famille qui est majoritairement francophone, on change de langue constamment, puis on a des langues qu'on utilise pour des autres. Je pense que n'importe quelle famille bilingue comprend ça. Là, il y a des langues que tu vas te chicaner dedans, il y a des langues que tu vas cuisiner dedans. Tu sais, comme tu changes pour différentes activités. Mm. Fait que ça faisait que, tu sais, quand on jokait ou on parlait plus de culture, on parlait en anglais. Parce que en anglais, il y a tous les archétypes. Il y a plus d'archétypes, il y a plus de, tu sais, c'est un avantage puis un désavantage, j'ai l'impression, mais comme il y a tellement de choses qui ont été faites dans la culture de personnages, de types de voix, tous les accents que tu peux faire, tu sais, australien, tu sais, en français, il y a des accents, mais c'est pas des accents qui sont des gros tropes aussi clairs que celles-là en anglais. Fait que, tu sais, c'est comme un autre terrain de jeu qui est un petit peu plus organisé, j'ai l'impression. Puis, c'est plus peut-être là-dedans. Je sais que je faisais beaucoup de personnages quand j'étais jeune, là, des scénarios d'impro, là, comme avec mes amis, où ce que j'arrivais puis je faisais une voix bizarre, là, c'est quelqu'un qui rentre dans une situation, des affaires dans ce style-là. Je pense que j'ai toujours été vraiment physique dans mon humour, même socialement, tu sais, je pense que se comporter bizarrement, c'est comme ce qui m'a toujours fait rire, là, d'arriver bien comme, tu sais, grandi ou man, super cool, mais genre, ce type d'humour-là m'a toujours fait plaisir de comme, jouer un peu stupide ou jouer des affaires comme ça, puis c'est sûr que c'est probablement ça que je faisais le plus à ce moment-là. C'est sûr que ça évolue avec le temps, là. Je veux dire, je fais encore ce que je faisais dans un certain sens où je suis encore quelqu'un de physique, je fais encore des petites poses bizarres, j'ai des maniérismes bizarres. C'est sûr que je fais pas des personnages, mais tout pour dire, c'est sûr que le physique, ça a toujours été dans mon jeu, puis c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé de jouer d'une façon physique. Comme, tu sais, j'ai suivi des formations de théâtre puis des formations de clown, puis la manière que je m'exprime, même quand je faisais, c'est très populaire aussi au Nouveau-Brunswick, l'improvisation de ligue, là, theater sports en anglais, mais c'est quand même différent parce que c'est comme les matchs de hockey, mais c'est de l'impro, là. Beaucoup de ce que je faisais, c'était des personnages bizarres ou tout le temps des gens étranges. Je pense que ça m'a toujours préoccupée.
Maintenant que j'ai réfléchi. T'as pris le clown est-ce que c'était avec Francine Côté à l'école d'humour?
Non, c'était pas avec Francine, c'était avec, ça m'en revient pas en ce moment.
OK. J'étais un clown pour presque 20 ans et j'ai entendu que, je pense que tu parlais avec Guillaume Wagner et t'as dit que tu as pris un cours de clown. Mais peut-être que tu sais pas ça, mais je trouve que tu es vraiment une clown sans peut-être savoir que tu es une clown. Parce que je trouve pas tout le monde est vraiment dans le style de clown, mais toi, je savais pas si tu étais conscient de ça, que tu es vraiment un clown naturel dans la façon que ton humour est pas juste intellectuel, c'est aussi physique. Les choses que tu fais physique vont être drôles aussi. Oui. Et tu es, comme je t'ai vu tu faisais des choses pendant la pandémie avec Marianne.
Thérien, oui.
Oui, et tu avais toujours des chapeaux comme ça, c'est vraiment typique de clown, comme moi j'ai fait.
C'est parce que mes cheveux sont toujours sales. Puis on enregistre, mais oui, j'ai toujours des chapeaux, j'ai plein de chapeaux, puis je collectionne même les chapeaux, puis j'ai été clown professionnel, comme puis j'en parle dans le podcast à Guillaume Wagner. J'ai toujours dit, tu sais, si on enlevait tout ce qui est visuel, tu sais, ils font des spectacles, des fois, le humour dans le noir, où il n'y a pas de lumière, c'est un pénombre, puis les humoristes, on entend juste leur voix. Puis j'ai toujours cru sincèrement que je me débrouillerais pas dans ces situations-là parce que c'est pas que j'ai pas des blagues qui sont bien écrites, je pense que j'ai ça aussi, mais je pense qu'il y a tellement de choses que je transmets par la façon que je bouge que on manquerait probablement un bon 25% de la compréhension de l'énergie parce que j'exprime comment je me sens à travers du mouvement, on voit comment je réagis à travers mon mouvement, comment je marche, comment toutes ces affaires-là, comment je me déplace. Le clown, c'est sûr que c'est prévalent dans ma création, dans le sens où j'ai suivi plusieurs formations. J'ai suivi une formation de clown avant, ça c'était avec Mathieu Chouinard quand j'ai fait mon bac de théâtre. Lui, je m'en rappelle. C'est comme le plus loin que ça va, le plus je m'en rappelle. Mais j'avais suivi des formations de clown avec lui, puis après ça, j'en ai refait à l'école d'humour, puis ça m'a remis en connexion avec ça. Mais la manière que je le vois, c'est que j'ai pogné ça, puis c'est devenu juste un outil dans mon bagage. De la même manière que je fais du battle rap dans la vie, j'écris du rap, Puis ça a aidé ma rythmique. Fait que maintenant, ma rythmique est beaucoup plus construite. Je la comprends mieux. Je suis capable de la reproduire parce que j'ai fait ce travail de piétage-là. Fait que tu pourrais décortiquer un numéro puis dire, OK, ça vient de ce cours de théâtre-là, ça vient de ce cours de clown-là, ça vient de... Tu sais, ça, c'est sûr qu'elle a appris ça en battle rap. Ça reste un amalgame de toutes ces affaires-là. Mais je pense que le clown... j'aurais pu être un clown. Je l'ai pensé souvent, même après l'école d'humour... Yves, dont le nom, le deuxième nom, mais je m'excuse, Yves. Il m'avait suggéré que je passe puis que je fasse les auditions pour l'École nationale de cirque. Il m'a dit, tu ferais un très bon clown, tu pourrais faire une belle carrière. Puis pour vrai, je l'ai contemplé, j'ai pensé, je me suis dit, je pourrais être heureuse là-dedans. Tu sais, c'est sûr que il y a très peu de mots dans le clown. Puis tu sais, moi, quand j'en utilise dans le clown, il y a beaucoup de clowns qui parlent pas. En fait, c'est ce que je préfère. Mais moi, j'aime utiliser des petits mots, là, dire, tu sais, tu vois quelque chose, là, t'es comme, oh, pom, 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 miam, 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 miam. Tu sais, j'aime ça avec parcimonie, tu sais, jamais...
mais quand on parle de clown, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être c'est plus...
qui imagine un clown de
anglophone. Les gens disent, oh, tu fais des fêtes pour des enfants. Mais... pour moi, parce que j'ai fait mes études même à l'école d'humour avec Philippe Gollier, et vraiment pour moi, clown, pour l'expliquer dans une façon vraiment simple, oui. c'est on joue avec des extrêmes. Et je oui. sais que même tu as deux Facebook pages, un qui est evil, coco, pas joli et pas poli, et vendeur de rire. Et ça, c'est quelque chose que je vois avec toi. Tu joues avec les extrêmes. Et on voit pas ça beaucoup en stand-up. C'est en général, les gens qui font du stand-up, ils vont jouer avec des émotions, mais c'est un peu plus... Tu pousses, je trouve, un peu plus dans cette direction avec les émotions. J'ai entendu que tu as parlé de ça aussi, de tes émotions. Est-ce que tu penses que ça vient de tes études ou est-ce que c'est même juste ta personnalité avec ta famille?
J'ai l'impression que le théâtre m'a beaucoup affecté. Là, c'est sûr que moi, je considère que je serais pas rentrée à l'école d'humour si j'avais pas fait le bac de théâtre. Je pense que mon jeu a soutenu mon niveau au début pour que je puisse apprendre à écrire parce que j'étais pas un auteur structuré. Là, avec beaucoup de pratique puis de temps, je commence à être un auteur qui est plus structuré. Puis je me qualifie de quelqu'un qui a plus de texte. C'est sûr que depuis le début, même avant que je fasse le bac de théâtre, ma mission, ça a toujours été de m'exprimer mes émotions, parce que là, on parle d'émotions, mais m'exprimer mes opinions. C'est sûr que ça vient d'un certain aspect de ma famille. Moi, quand j'étais à la maison, quand j'étais jeune, je parlais pas parce qu'il y avait tellement... Tu sais, j'ai trois sœurs, je suis enfant du milieu, là, l'enfant ignoré, là, la troisième. Mm. Puis... tu sais, j'aurais eu besoin peut-être de cette écoute-là, c'est que je la cherche dans ma vie. C'est un peu déprimant, mais ma psy a raison, c'est vrai. J'ai toujours eu cette mission-là. Puis le théâtre, autant que ça m'aidait à extérioriser pour que les gens comprennent l'émotion, j'étais pas en train de parler de moi, puis ça me manquait tout le temps d'écrire les textes. Fait que quand on me l'a proposé de faire l'école d'humour, parce que moi, je savais pas que ça existait, il y a quelqu'un qui me l'a dit, puis là, je suis venue aveuglement. Puis je l'ai faite, ne sachant pas si j'allais aimer ça. Puis là, juste l'idée que je pouvais dire ce que je voulais, c'était vraiment suffisant pour que je me dise, c'est sûr que je fais ça pour le reste de ma vie. Parce que j'ai besoin d'exprimer mes opinions puis mes émotions. Une de mes plus grandes valeurs, c'est la vérité. Comme, tu sais, si je regarde, c'est quoi mes valeurs? C'est la justice, la vérité. Je lisais en note à quelque part ici. Toutes mes valeurs, préférées. C'est vrai. Ma psy m'avait fait faire cet exercice-là.
Récemment.
Mais ma psy m'a fait faire cet exercice-là. Puis c'est vraiment important parce que tu peux pas être heureux si tu vis pas selon ça. Puis ça expliquerait pourquoi je serais allée en humour. Ça explique tous les gestes que tu fais dans ta vie parce que si tu regardes une liste des valeurs puis tu piges ceux qui sont essentiels que si tu les briserais, tu te sentrais pas bien. Ça va te diriger dans la vie parce que c'est ça qui est... Si tu respectes ces affaires-là, tu ne peux qu'être heureux. Tu peux pas être pas bien parce que tu te respectes. C'est tout. C'est comme
mais
ça que ça marche.
Mais pourquoi tu as créé cette liste? Est-ce que tu avais peut-être même récemment ou quand tu as commencé dans l'humour où tu avais un temps que tu sentais pas ça? Comme j'étais entendu, tu as dit quelque chose comme tu veux sentir forte et connectée. Il y avait un temps que tu sentais pas fort, tu sentais pas connecté, peut-être un peu disconnecté, pas savoir ce que tu voulais faire?
Ben c'est sûr que, tu sais, moi, je me promène aveuglément dans la vie, là, puis j'essaie de suivre le bonheur. Là. Dès que quelque chose me rend heureux, j'en fais plus jusqu'au temps que j'essaie de trouver la prochaine affaire. Puis le théâtre, ça a été ça, dans le sens où il y avait un potentiel de toucher à des affaires qui pouvaient me rendre heureuse. Je l'ai fait, puis ça me rendait heureuse, mais je sentais qu'il manquait de quoi. J'ai essayé l'affaire qui m'apportait du bonheur, je l'ai suivi. Puis oui, j'ai besoin de me sentir forte dans l'optique où j'étais pas confiante quand j'étais plus jeune. Tu sais, mon spectacle LED parle de ça. Quand t'es gros toute ta vie, puis moi j'étais grosse quand j'étais plus jeune, puis je suis encore grosse. Là, on voit pas toutes les parties grosses, mais je suis grosse. Et c'est sûr que ça affecte comment tu te perçois dans la vie, la place que tu prends, parce que t'es appris que tu prends trop de place, il faut prendre moins de place. Non, non. Fait que j'ai toujours voulu déconstruire ça. Puis ma mission avec l'humour, en termes de connexion, là, parce que c'est sûr que je travaille toujours sur me sentir que je mérite ma place, puis ma force, puis comprendre mon pouvoir, puis mon impact, puis me responsabiliser avec ça. Mais en termes de connexion, la manière que je vais la chercher, là, c'est que je fais les blagues que j'aurais eu besoin d'entendre. Fait que quand je fais de l'humour, les choses que je les dis parce que j'aurais besoin que quelqu'un les dise, puis que personne n'est en train de les dire.
Et c'était toujours comme ça, même quand tu as commencé?
Non, au début, 2005. C'est sûr que je pense que n'importe qui, ce qui touche à une forme d'art pour les premières fois, va passer par toutes les bases. T'sais, j'ai écrit des numéros... des anecdotes de bar, des affaires sur le sexe, toutes les, tu sais, il y a des choses que tu fais au début, tu racontes ton histoire drôle avec ton ami, t'essaies d'écrire des liners, j'ai passé par toute phase identitaire possible de l'humour, là, j'ai fait des personnages, j'ai fait, écoute, j'ai pas un style, j'ai fait de l'absurde, des liners. L'idée, c'est de, pour moi, l'école d'humour, c'était plus comme une place où je peux essayer de trouver qu'est-ce qui me fait plaisir. Quand est-ce que tu commences à t'exprimer, là, c'est pas évident de savoir ce que t'as à dire parce que veux pas, t'es pas dans ton vécu puis t'es pas connecté. Puis le plus que tu fais d'affaires, le plus que tu te dis, OK, ça, je me sentais moins dans moi-même. Ah, ça, je le faisais puis je me sentais plus dans moi-même. Le premier numéro où je me suis sentie que j'étais comme, j'ai touché l'affaire, c'était mon numéro sur... le taxi, là, qui est une agression sexuelle vécue.
Oui.
Puis je sentais que je disais de quoi qui était important pour moi. Je me sentais que je m'exprimais, je me sentais en connexion avec mes émotions. Je me sentais que je disais quelque chose que j'avais besoin d'entendre, que quelqu'un d'autre aurait peut-être besoin d'entendre, que quelqu'un d'autre se sente moins seul. J'ai voulu le faire d'une façon qui serait pas triggering, là, comme bon, on n'avait pas trigger warning dans ce temps-là. Puis je pense que c'est quand même réussi dans son entièreté, mais en... C'est sûr que là, maintenant, ce numéro-là, je le fais juste dans des contextes qu'on pourrait dire consensuels, dans le sens où je le fais au cabaret Fuck la culture du viol, puis les gens, ils savent qu'on s'en vient parler de ça, puis je trouve que c'est plus approprié là où on en est. Mais quand j'ai commencé, je le faisais dans les bars, puis j'essayais de l'aborder le plus possible d'une façon qui serait pas violente. Puis c'est pas facile, tu sais, je me suis planté beaucoup sur ce numéro-là avant qu'il devienne bon, mais je me sentais que c'est... Tu sais, pour moi, ce numéro-là, ça me faisait filer comme si j'avais une utilité dans le monde, plus que de juste faire des blagues. Puis ça, c'est quelque chose qui me motivait. Fait que, comme je dis, moi, je suis le bonheur. Fait que ça m'a apporté du bonheur. Ben, j'ai continué dans cette direction-là. Puis c'est un peu ça, tu sais, tu crées. Puis quand tu trouves les petits moments là qui sont parfaits, tu t'accroches à ces affaires-là puis tu développes ces choses-là.
Et quand tu travaillais sur cette routine, c'était en 2015 que tu as fait cette routine?
Ça me semblerait la bonne date, oui.
Je pense que je l'ai vu sur YouTube. C'était Club Soda.
Oui, il y a une première version de ce texte-là qui est sur YouTube au Club Soda. Tu peux écrire, je pense que c'est écrit Coucou Bellevue au Club Soda, puis tu trouves le number. Pour ceux qui veulent aller voir, il faut considérer que ça, tu sais, on évolue dans le travail, mais je pense quand même qu'il y a vraiment un message pertinent dedans.
Quand tu travaillais sur cette routine, est-ce que tu enregistrais cette routine? Est-ce que tu regardais le show le lendemain? Quel est ta process pour écrire un numéro comme ça?
Moi, je travaille pas. J'enregistre dans le sens où souvent quand ce que je... Moi, je travaille à l'oral, là, dans le sens où j'écris dans la journée, là, j'écris des jokes, je fais mes grosses lignes, mais tu sais, je fais jamais un wording qui est concret au départ. Je me fais des pacings où ce que j'essaie de voir comment les idées peuvent flower ensemble. Je me fais des blocs, là, tu sais. Mes documents, ils ont presque pas de mots dessus. Ensuite, je vais performer immédiatement en temps normal. Puis là, même en ce moment, je suis repartie sur mon rodage. Là, j'ai dû travailler différemment cette année parce que c'est la pandémie. Donc, j'ai écrit des textes et j'ai été les faire sur scène. Puis je suis capable de le faire d'autre manière. C'est juste que je préfère le faire de la manière que je vais expliquer. Je fais des pacings. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui travaille de cette façon-là, mais j'écris vraiment pas de texte pour commencer. Je décolle dans une idée, j'ai des idées de blagues que je note en grosso modo, ça serait quoi qu'est-ce qui me fait rire de cette idée-là, mais sans que ça soit parfaitement structuré. Je m'en vais le faire dans un open mic. J'improvise à travers du flow. Puis, tu sais, l'affaire avec ça, c'est que je me passe naturellement à travers l'idée. Tu sais, moi, je dis que je travaille à l'oral. Là, avant d'aller sur le open mic, là, je vais aller faire une story sur Instagram où je vais jaser à propos de mon sujet, mais sans avoir de blague. Fait que je vais parler de pourquoi je réfléchis sur ça. Je vais être comme dans ma story, je vais être comme « Hey, je suis en train de penser à ce site. » Puis comme « Ça vous dérange pas quand les mondes font ça? » Comme moi, ça me dérange. Ça m'a tout le temps dérangé. Je sais pas quoi ce qui me dérange avec ça. Tu sais, je discute. Ensuite, je pars dans mon pacing. Je vais faire ma première version avec les blagues ajoutées. Puis là, je continue de faire ça, puis j'enregistre à chaque soir, mais la seule raison que j'enregistre, c'est pour que je puisse aller checker. J'ai jamais écouté en intégral. Tout de suite après, si j'ai besoin, je m'en vais checker une blague que j'ai improvisée, je la note, je l'ajoute dans mon pacing. Quand elle a fonctionné, je la réessaye jusque pour voir si elle tient la route, parce qu'il y a des blagues qu'on improvise qui ne tiennent pas la route. Puis là, je trouve que ça flow mieux parce que moi, au début, j'écrivais les textes vraiment des blocs, là. Puis j'avais... moi, je suis dyslexique. J'ai de la misère à mémoriser. Si je fais de la lecture, tout vient m'aller. Je me mets à imaginer la feuille, les mots, je comprends plus, ils sont où. Puis je me mets à bégayer. Fait que j'ai arrêté de faire ça parce que je bégayais tout le temps. J'étais comme... la phrase devenait mélangée. Je disais le punch avant de dire la prémisse. Écoute, it was a disaster. Puis... j'ai arrêté de le faire comme ça. J'ai commencé à travailler à l'oral. Puis le plus que tu répètes quelque chose, plus que je répète à l'oral, le mieux qu'il devient. Puis ça marche pour moi. Probablement là où j'écris le plus là, des petites jokes, c'est sur Facebook. Même sur Facebook, je travaille. Je fais des blagues qui vont probablement éventuellement. Là, je peaufine des wordings. J'ai une idée, fait que je la travaille au bout puis je la mets. Fait que j'essaie de varier avec toutes ces différentes plateformes-là, de médias sociaux puis de trucs pour... tout enfin combiné sur ce qui est la prestation scénique. En discutant, je travaille l'énergie de l'idée. Comme souvent, moi, je travaille avec Marianne Terrien que tu as parlé tantôt. Quand je vais travailler avec elle, beaucoup de ce qu'on va faire, là, quand on regarde les numéros, parce que moi, j'arrive avec mon numéro qui, après que je l'ai enregistré puis que j'ai une version que j'aime, je le transcris au cas où que j'ai besoin de le soumettre à un festival ou que j'ai besoin que quelqu'un travaille dessus parce que, tu sais, tout le monde a besoin des versions écrites. Là, je peux pas... faut que je le documente à un certain moment. Je le documente, j'arrive avec mon texte en bloc à Marianne, puis là, elle va regarder ça, puis elle va me demander... la majorité du temps, la première chose qu'elle me dit, c'est « Qu'est-ce que tu essaies de dire? » Là, je dis « Ben, c'est clair, là, c'est ça le message. » Puis là, elle est comme « Non, non, non. Je comprends que c'est assez de dire, mais comme qu'est-ce que tu as envie que les gens comprennent de ça? » Parce que là, elle m'explique ce qu'elle a compris avec sa lecture. On décortique l'idée, on parle de la mission du numéro, souvent, avant de même discuter s'il y a des blagues à ajouter ou quoi que ce soit, on essaie de ficeler. Puis c'est pour ça que mes débuts de number, puis mes fins de number, plus mes débuts, mais ça les deux, sont aussi clairs parce que l'affaire qui est la plus compliquée, c'est rentrer dans le sujet. Mais quand ton sujet pour toi est tellement évident, c'est comme ça devient, je pourrais même pas expliquer le flow que tu peux mettre dessus un début de numéro. Tu sais, tu fais pas juste faire salut puis hey, je pensais à ça là, tu sais, comme tu pars d'une situation, tu peux partir dans une idée, en tout cas il y a mille manières, mais avec la clarification de l'idée, ça fait que la structure est tellement solide qu'elle peut tenir les blagues, parce que juste des blagues là avec pas suffisamment de clarté, c'est drôle, mais on s'en rappelle pas après. Fait que moi, en tout cas, ça dépend là, je veux dire. Je dis ça. Ça n'a pas pour
si
tout le monde.
Mais si tu dis que tu veux l'honnêteté, ça c'est très important pour toi, je comprends pourquoi tu veux pas juste écrire des blagues. Je t'ai déjà entendu parler d'être un peu tanné du punch.
Ben moi, c'est pas ce qui est le plus important pour moi, là. À l'école du monde, je me faisais souvent critiquer, puis c'est une critique tout à fait valide, que mes numbers étaient trop informatifs. Tu sais, on a beaucoup appris, mais on n'a pas beaucoup ri. Puis je disais, OK, ouais, mais c'est vraiment drôle, les informations. Puis ça m'a comme mis en conscience avec le fait que je dois quand même, pour vraiment vendre les affaires, parce que souvent, j'ai des idées que je trouve excellentes. J'allais dire des excellentes idées, mais c'est moi qui les trouve bonnes. Que quelqu'un entendrait cette idée-là, ça les convaincrait pas de rien. Mais le rire a un pouvoir de comme transformation sur les gens. J'ai vraiment l'impression, tu sais. que tu peux changer quelqu'un d'avis en le faisant rire. Fait que pour moi, la joke est là comme vecteur de changement. J'essaie de changer le monde. Mais
peut-être tu essaies de faire quelque chose avec la balance entre Evil Coco et Coco qui vend des blagues. Parce que dans Coco... une façon, c'est comme t'es rebelle,
ouais.
Mais aussi t'es mainstream. T'es un peu dans le milieu. Parce que je pense que si t'as des bonnes idées, tu veux changer le monde, mais tu veux faire ça avec l'humour, tu dois jouer un petit peu avec ça.
Oui, parce que tu peux pas arriver avec tes idées politisées ou quoi que ce soit. Puis tu sais, comme toutes les humoristes politisés l'ont vécu. Lenny Bruce, elle n'a pas de jouer nulle part. Crime, ça, tu t'es arrêté. Richard Pryor aussi. L'affaire, tu sais, je me compare vraiment pas avec ça. Vraiment pas. Mais c'est juste pour dire que l'industrie n'est pas toujours prête pour, tu sais, souvent... Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais je me fais dire que mon idée est trop champ gauche, puis il faudrait que je coupe des bouts, qu'ils trouvent que ça pousse trop loin. Puis je le fais parce qu'il y a un degré de modification que je dois faire pour avoir la visibilité pour pousser mes idées. Puis c'est sûr qu'après ça, quand les gens ont une idée générale de ce que je fais, ils viennent voir le show solo, puis ils vont avoir toutes les idées. Mm. Evil Coco Béliveau et Coco Béliveau sont deux parties de la même Coco Béliveau, bien sûr. Coco Béliveau, j'ai créé le compte Evil Coco Béliveau parce que j'avais besoin de quelque part où je pouvais mettre les jokes qui n'étaient pas disables à travers du personnage social qui est Coco Béliveau. Parce que, veux pas, il y a comme un... Tu sais, tout le monde a une dualité d'être. Autant que je suis dans une affaire... C'est sûr que si tu regardes les deux, tu vas jamais voir vraiment beaucoup de différence dans le sens où les deux sont féministes, là. Mm-hmm. Mais Evil Coco Béliveau me permet de dire des choses que je peux pas dire parce que elle est quelqu'un d'autre. Elle, tu sais, c'est vraiment un personnage. Evil Coco Béliveau, là, si tu lis dans, il y a une description quelque part où ce que c'est comme c'est un démon, 200 millions d'années de vieux qui est venu sur Terre pour torturer les hommes. Mm-hmm. Fait que quand j'écris quelque chose, c'est vraiment pas moi qui parle. C'est une créature immortelle qui vient nous expliquer des affaires qu'on pourrait même pas savoir parce qu'on n'est pas là où ça fait aussi longtemps que cette entité-là.
Mais ça fait du bon sens que tu fais ça et tu es un rapper parce que tu sais, c'est Eminem. Eminem a deux personnages. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé, OK, elle est influencée par Eminem.
J'avais même pas pensé à ça.
Yeah, Marshall, il chante comme Marshall.
Ouais, c'est ça. J'avais même pas pensé. Ben, Slim Shady.
Slim Shady.
Puis moi, j'ai dit dans mon battle que je m'appelle Slim Shediac, comme à Shediac.
Oh, c'est pas vrai. J'adore ça.
Il y a de l'influence, c'est sûr. Je suis fan de Slim Shady et son œuvre, comme je pense que tout le monde l'est dans un certain optique. Là. Mais j'ai jamais été obsédé avec son art ou quoi que ce soit. Ceci dit, c'est quand même vrai. Mais je pense que pour moi, c'est juste une façon d'exprimer des affaires que je... Tu sais, on entend beaucoup parler des artistes qui se font dire comme par leur commandite d'enlever quelque chose de leur page. C'est trop vulgaire, tu peux pas dire ça, tu nous représentes. Fait que j'essaie de faire des choses, tu sais, de faire un branding pour ma personne. C'est pas des choses qui sont conscientes, mais tu sais, il y a une dissociation qui se fait entre les choses qui sont plus l'industrie puis qui sont plus toi, puis j'essaie de garder les choses séparées pour avoir la liberté de faire continuer d'avoir la liberté de faire les choses que je veux en or, puis Evil Coco Béliveau, c'est un peu plus ça me permet d'aller soit un peu plus rough ou de dire quelque chose mais pas en ma voix sans qu'il y ait de dissociation parce que j'assume les choses que je dis sur cette page là mais c'est la majorité, c'est des grosses niaiseries.
Mais quand t'étais cette année sur prochain stand-up, comment est-ce que c'était pour toi avec cette dualité, parce que si tu aimes pousser l'enveloppe, mais tu es sur télévision et j'imagine il y a des choses qu'il veut que tu dis pas. Comment est-ce que cette expérience était pour toi?
Ben, tu sais, moi, j'ai soumis des affaires que le producteur aurait le potentiel d'aimer. Tu sais, j'écris des choses. Dans l'année, là, quand t'écris tes numéros parce que, veux pas, il faut que je fasse de la télé pour payer mon loyer à un certain degré. Et pour faire de la télé, il y a un consensus qui se fait. Tu peux pas parler de des compagnies. Tu peux pas insulter des... Il y a toutes sortes d'affaires que tu peux pas faire parce qu'il y a des avocats qui passent à travers ton texte quand ce que tu soumets ton texte. Fait que je passe le peigne, moi, avant, en me disant, voici ce que je veux présenter au grand public. Voici l'idée générale de ma personne. J'essaie d'être le plus intègre puis honnête avec moi-même sans couper. Je propose. C'est sûr qu'il y a toujours des coupures dans mes numéros. Il y a toujours des morceaux qui sont enlevés. Mais tu sais, je travaille autour de ça puis je pense que les barèmes qu'on met pour ces affaires-là peuvent être des vecteurs de créativité parce que Il me donne la zone dans laquelle je joue, puis moi, j'essaie d'être le plus créatif possible là-dedans. C'est sûr que des fois, j'aurais le goût de pousser un petit peu plus loin, mais c'est pas la place pour ces affaires-là, parce que c'est pas moi qui décide. Mais si je décidais, ça serait la place pour ces affaires-là. Mais c'est pas moi qui décide. Moi, je vois ça comme... puis je dis la même affaire que Colin Boudria m'a dit, qui est un autre participant du prochain stand-up. Lui, à l'école du monde, c'était l'autre gars qui faisait de l'humour politique. Je dis l'autre gars. L'autre moi puis lui. C'était juste moi puis lui. Vraiment, je suis l'autre lui, en fait, c'est vrai. Parce que Colin, il faisait de l'humour politique, puis moi, je faisais n'importe quoi. Puis là, après ça, j'ai commencé à faire ce que Colin faisait. Ça fait que moi, je suis l'autre Colin. Il disait tout le temps, tu sais, il faut mettre... Man, c'est Mary Poppins. Il faut mettre le sucre avec la médecine, la cuillère de sucre avec la médecine. Mm. Puis c'est vrai, parce que personne ne veut prendre la médecine. Puis moi non plus, moi non plus, je voudrais pas la prendre si elle était enfoncée dans ma gorge d'une façon agressive. Fait qu'il faut que je joue gentil. Il faut que je joue gentil. Oui. C'est ça que je fais. Même si, dans ma tête, je suis dans un rap battle, puis je veux être vraiment agressive, puis rentrer au poste, puis juste dire de quoi directement, je peux pas. Faut que je joue par un autre chemin. Puis le message passe différemment. Puis c'est pour ça que je fais le rap aussi, parce que ça me permet justement de faire cette connexion directe-là avec le thème. Quand tu fais du rap, tu peux dire des choses sans t'excuser. Tu vas direct. C'est agressif, c'est drôle pareil, mais t'as pas à t'excuser, t'as pas à faire ta cue. Tu peux juste le dire. Puis ça, c'était libérateur pour moi. C'est sûr que j'ai commencé à en faire dans l'optique où j'avais besoin d'un autre aspect. Parce qu'il y a aucune forme d'art qui va t'offrir tout ce dont tu as besoin, selon moi. Il y a beaucoup d'artistes qui trouvent leur forme d'art puis qui se concentrent à ça pour devenir le maximum meilleur possible. Puis c'est une méthode qui fonctionne absolument à 100%. Tu fais quelque chose, puis si tu fais juste cette chose-là, puis tu mets toute ton énergie puis ton temps là-dedans, tu vas devenir le meilleur de cette affaire-là. Mm. Mais moi, j'ai des besoins qui sont plus importants que d'être la meilleure stand-up, par exemple. Mm. Des besoins de m'exprimer, des besoins de changer le monde. C'est pour ça que je pratique plusieurs formes d'art. C'est parce que j'ai besoin d'une chose que le rap m'apporte. J'ai besoin d'une chose que le stand-up m'apporte. J'ai besoin d'une chose que le clown ou le théâtre m'apporte. Puis à travers de ces affaires-là, la combinaison, c'est sûr que ça renforce mon art. Ça fait pas du stand-up classique. Puis je vais jamais être la meilleure stand-up classique. Ça, c'est impossible. Mais ça dépend c'est quoi ton but. Puis c'est pas ça mon but d'être la meilleure stand-up classique. Mon but, c'est de faire du changement à travers du rire puis de faire du bien au monde. Fait que j'ai absolument accompli ma mission en développant des outils de communication, comme que j'ai fait, j'ai trouvé des moyens. C'est tellement ésotérique dans un certain sens d'expliquer comme le processus de création, de surtout pour la télé, parce que c'est beaucoup de back and forth. En fait, c'est comme être dans une relation avec quelqu'un, pour vrai. Parce que quand t'es en amour avec quelqu'un, pour ceux qui vivent l'amour là, sous ses plusieurs formes, tu dois faire des concessions avec cette personne-là. Tu l'aimes, tu veux avoir sa compagnie, tu veux l'avoir dans sa vie, elle aussi elle veut dans sa vie. Fait qu'eux autres, ils me laissent aller un petit peu dans ça. Moi, je les respecte. Eux autres, ils mettent leurs boundaries, moi je mets mes boundaries. Mes boundaries sont peut-être moins grosses, là, mais tu sais, moi je dis, il y a des fois j'ai refusé de couper quelque chose. J'ai dit, si j'enlève ça, ça gâche la structure. Je peux changer un petit peu ce site, mais je peux pas l'enlever. Puis souvent, s'il y a un respect dans la concession, les gens ils vont embarquer avec toi. Tout le monde veut que ça marche dans la vraie réalité de l'affaire. L'émission veut que ça soit bon. Ils veulent s'assurer que c'est dans 100% le respect, puis qu'il y a personne qui va t'insulter, qui va écrire la chaîne. Puis toi, tu veux passer ton message de la façon la plus concise possible. Tu veux pas que personne écrive fâché non plus. Fait que tu communiques, puis tu fais des concessions, parce que c'est ça l'amour. Pour avoir le meilleur résultat, tu fais du back and forth jusqu'au temps que même affaire avec l'auteur, tu sais, la raison que tu rentres un auteur dans ta donne, c'est pas pour qu'elle vienne écrire toutes tes blagues puis arranger tes numéros puis tu fais pas de travail, là. C'est pour qu'elle vienne t'offrir un regard extérieur sur ta personne pour que tu puisses comprendre ce que tu fais. Tu sais, Marianne, elle vient puis c'est même affaire qu'une relation, tu sais, ton partenaire, il t'aide à évoluer. Parce que tu peux pas voir toutes tes petites affaires, tu sais. Tu parles à quelqu'un, puis elle fait « Hey, j'aime pas ça quand tu me parles de même. » Puis là, tu te rends même pas compte que tu parles au monde de même, toi, dans la vie. T'es comme « Hey, excuse, j'ai jamais... C'était pas mon intention. » Ben, c'est quand même ce que t'as fait. Fait que là, à partir du regard extérieur des autres, tu peux mettre les morceaux pour qu'ils s'enlignent sur la bonne affaire, le bon message pour que tout le monde comprenne. Toi, tu dis X, les gens, ils comprennent X dans leur tête. Tout seul, ça se fait. Moins évident.
Mais ça semble que le public francophone t'a vu sur la télévision cette année. C'est une très bonne chose. Alors, voir la façon que tu le vois dans une façon très positive, parce que je pense pas tout le monde a des interactions positives avec des producers de télévision. Mais
non, puis tu sais, ça arrive, là,
t'as eu du succès. Et pour moi, je t'ai vu au Art Loft. C'était juste un petit temps qu'on a passé ensemble et j'ai vu ton travail, j'étais vraiment impressionnée. Mais quand je t'ai vu sur Prochain Stand-Up, un moment qui m'a vraiment touchée, c'était quand t'as dit « Donne-moi mes poches de pantalon, gouvernement ». Ça, pour moi, c'était un moment où, pour moi, je parle beaucoup de le temps que t'as trouvé ta voix, que tu peux trouver, que toutes les choses que tu essaies de trouver quand t'es sur scène comme humoriste, que ça vient ensemble, que le public te comprend et le message que tu essaies de donner avec l'humour, c'est tout en sync.
Mais ça,
et pour moi, ça, c'était
c'est...
un moment comme ça.
Ouais.
Est-ce que pour toi, c'était évident aussi? T'étais comme, wow, quelque chose arrive dans ce moment ou est-ce que ça fait longtemps que tu arrives là? Alors, c'est pas si...
Mais tu sais, c'est des paliers, là, veux pas, premier palier de... Je pense que c'est toute une... L'affaire qui est la plus difficile là, sur scène, là, c'est être soi-même. C'est stupide parce que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est être soi-même. Tu sais, je suis moi-même en ce moment. Mais être à son soi-même maximum, meilleur tout le temps, puis de présenter son meilleur soi-même, le soi-même, le soi-même qui est drôle, là, qui est vraiment toi, c'est tellement difficile d'arriver là parce que c'est pas naturel de te mettre dans cet état-là de tout. Tu sais, comme...
Oui, avec le public et quand tu commences à faire une télévision, il y a des caméras.
Oui, il faut que tu t'entraînes à juste être émané de toi-même complètement. Ça prend énormément de travail. Puis c'est vraiment le travail de vie. Il y a des paliers, tu sais, à chaque fois. Ça reste la même affaire de ce que je disais où ce que tu suis ton bonheur. Ben, tous les petits ces moments-là où tu sens que tu as été toi-même, tu t'accroches à ces affaires-là puis tu les évolues. Puis c'est pour ça que pour moi, l'étape souvent... N'importe quel humoriste au long de sa carrière, il n'y a jamais personne qui va travailler que uniquement tout seul. Ça prend un regard extérieur. Ça prend, pas nécessairement un auteur, mais quelqu'un avec qui tu peux discuter, puis quelqu'un qui te regarde, puis qui peut te parler, parce que il y a des moments de cette trouvaille-là de soi-même qui te dépassent, qui sont... Faudrait que tu sois surhumain pour avoir tellement de regards sur toi-même, parce qu'on passe notre vie en tant qu'artiste, je pense que je peux parler pour tous les artistes, à... faire de l'introspection puis être vraiment concentré sur sa personne. Puis c'est pour ça que c'est un métier qui attire autant de personnes égoïstes, parce que c'est moi. Mais de faire ça d'une façon saine, là, c'est beaucoup de travail de dire, OK, comment est-ce que je peux extirper le plus de positif de cette affaire-là? Puis oui, j'ai senti dans ce moment-là que j'étais en train de venir en connexion avec moi-même, mais je me sens à chaque année que je m'améliore infiniment, puis que je suis plus en plus en connexion avec ma personne, ou je suis plus en plus sur mon X, puis c'est normal, tu sais, j'arrive sur mon 30 ans, je suis dans l'année de mes 30 ans. C'est normal que je commence à connaître qui ce que je suis, je pense.
Mais c'est intéressant que tu as parlé aussi de c'est pas normal de travailler tout seul, parce que je trouve dans la communauté anglophone humoristique, on travaille pas beaucoup avec des auteurs. On travaille pas beaucoup avec même des metteurs en scène. Beaucoup de mes amis qui ont fait leur one-woman show, leur one-man show, travaillent tout seuls. Et pour moi, c'est vraiment un mindfuck de voir au Québec le système qui est créé déjà, qui a été développé pendant des années, que tout le monde travaille avec des auteurs. Et je sais, il y a beaucoup d'anglophones qui travaillent avec des amis. Ils vont dire, OK, let's
tu sais, Marianne, c'est mon amie, là, quand on travaille des numbers, là, la majorité du temps, on n'est pas là en train d'écrire, on est juste en train de discuter sur une idée puis l'approfondir, puis là, elle va dire de quoi, puis je vais être comme, ah, ça, c'est drôle, moi, je dirais ceci à partir de ça, puis là, on jase, là. C'est pas des affaires de, OK, il manquerait une joke ici, ou tout ce qui est script édition. Tu sais, quoique, quand on fait le show, on commence à faire ça vers la fin du spectacle. On essaie de rentrer des jokes dans des spots puis tout ça, là, où ce que elle va me suivre dans le show, puis elle va dire, hey, ce bout de site, c'était le bout où ce qu'il y avait le moins de rire. Faudrait qu'on ajoute de quoi ici. Puis j'étais comme, ouais, je l'ai senti, tu sais, je me dis, OK. L'affaire avec pas pouvoir travailler tout seul ou qu'on devrait pas travailler tout seul, c'est qu'on vit en société. On est des créatures de société. On a besoin d'autrui pour se stimuler. Je pense qu'il y a des gens que leur imaginaire, par contre, est suffisamment puissant pour qu'ils puissent s'auto-stimuler tout seuls. JC Surette, là, il m'avait donné un livre qui est « Libérer votre créativité », qui est... ils l'ont en anglais, là, mais « La Bible des artistes », que ça s'appelle. Julia Cameron.
Oh! The Artist's Way?
Yeah, exactly.
Oh, j'adore ça. J'ai fait ça comme ça fait 25 ans passé.
Ouais, c'est que là, il me l'a donné en français. Il dit, tu devrais lire ça. Je pense que j'avais lu une autre version, justement, mais tu sais, elle parle de rendez-vous avec l'artiste, que je sais pas que ça s'appelle en anglais, mais qui essentiellement, t'es supposé de prendre du temps pour consommer de l'œuvre puis tout ça pour nourrir.
Artist Day.
Artist Day. So, ça, là, le travail que tu fais avec cette personne-là, c'est presque ça que c'est. Mis à part le fait que Artist Day, t'es supposé de le faire tout seul. Ça nourrit tes idées, ça, tu sais, c'est deux cerveaux qui flexent à travers d'une chose, ça te fait voir des choses que toi, ton cerveau fait pas, ces connexions-là, ça t'aide à élargir tes connexions que tu fais. C'est ça, la vie de société, c'est de faire ces connexions-là avec toutes les affaires de tout le monde. Il y aurait pas d'or si on était tout seul. Si moi, j'étais sur une île déserte, mon stand-up serait poche pourrie parce que j'aurais rien pour nourrir. Ça prend d'autres mondes.
Je voulais parler un petit peu de tes influences parce que je sais que tu étais élevée en Nouveau-Brunswick et beaucoup de personnes qui étaient élevées au Québec, j'entends qu'ils écoutaient Ding et Dong, ils voyaient juste pour rire à la télé. Tu m'as dit que tu étais influencée par des humoristes anglophones. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes influences?
Ben, tu sais, j'en ai nommé tantôt. Quand j'ai dit Richard Pryor, puis George Carlin, puis Lenny Bruce, là, c'était pas une joke. Là. Comme moi, mon père, il écoutait ça. On écoutait les gars-là juste pour rire en anglais. J'ai jamais vu un gars-là juste pour rire en français. Pas un seul. Même à ce jour. C'est gênant.
Oh, yeah.
J'ai jamais écouté ça. J'ai vu des petits bouts d'animation, des affaires comme ça quand on me donne des documents de référence, mais j'ai jamais vu un plein gala.
Mais t'as dit que ton père t'a introduit à Richard Pryor. T'étais sur le radio, t'avais un...
Ben, tu sais, non, moi, je suis quand même... j'ai juste 30 ans. On n'écoutait pas de l'humour à la radio. Je pense même pas qu'il y avait ça au Nouveau-Brunswick, de l'humour à la radio. Mais il y avait déjà Comedy Network et ces affaires-là. Puis il passait toujours les vieux spéciales ou les affaires comme ça. Où mon père il allait louer des shows, là, il allait les louer, des enregistrements, où il louait des disques, là. D'humoriste, écoutait ça dans le char. Fait que lui, il était vraiment un fan d'humour. Moi, j'étais fan dans le sens où c'est ça qu'on écoutait. Tu sais, j'étais pas. Je considérais jamais que c'était une job. Dans ma tête, ces gens-là, ils faisaient ça pour le fun. Puis c'était absolument pas une job. Puis je pouvais pas faire ça. Puis c'était impossible. Même quand on m'a proposé l'école d'humour, j'ai dit, pas sûr. Ça me semble inventer ce que tu me dis là. Une école où on apprend l'humour, je pense que je vais finir mon bac de théâtre. Merci.
j'étais alors, comme... c'était toi, ta mère aussi et tes deux sœurs qui écoutaient Richard Pryor et...
Ben, moi puis mon père, on écoutait, tu sais, des fois, il laissait juste la télé rouler sur ce poste-là, puis il partait faire des affaires, puis moi, j'étais toute seule à écouter ça, là. Tout le monde dans ma famille est drôle. J'ai trois sœurs, ils sont toutes drôles, vraiment, même, je serais prête à dire qu'ils sont plus drôles que moi, dans ce qui est social, là. Ma sœur Margot est crampante. Elle pourrait jamais écrire un number. On en a discuté, puis on est d'accord. Elle pourrait pas écrire un number, mais elle est, socialement parlant, plus drôle que moi. Genre, je pourrais jamais faire rire dans un party le monde comme qu'elle a fait rire le monde. C'est impossible. Fait que, tu sais, on a grandi beaucoup avec le avoir de sens du monde, puis on était beaucoup de filles, fait qu'on était, tu sais, jamais gêné de dire ce qu'on voulait, là. On passait du temps juste en filles. La seule personne qui était là, c'était mon père, puis mon père, c'était difficile à dire. Tu sais, ma sœur, elle demandait à mon père, elle a dit, moi, je vais être une coiffeuse, puis je vais marier un docteur, puis elle dit, tu vas être un docteur, puis tu peux marier un coiffeur, si tu veux. Tu peux être un docteur, pas un coiffeur, mais tu peux marier... qui tu veux, tu sais, il faut que c'est toi le docteur, puis il nous disait des affaires comme ça, puis là, moi, j'étais comme, ah, et je dis, moi, je vais être un docteur aussi, il dit, on verra, tu sais. Il était beaucoup sur cette idée-là d'être indépendant financièrement, puis toutes les affaires qui sont des super belles valeurs féministes, puis il faisait tout le temps des jokes, tu sais, il était plus pince sans rire, mon père, vraiment, c'est un gars sévère, là, comme probablement mon côté roast, il vient de là, tout ce que je fais de roast, ça doit venir de là. Ma mère est vraiment un personnage. Ma mère est drôle, mais pas de la façon que tu fais exprès. Ma mère est drôle parce qu'elle est vraiment bizarre. C'est une femme bizarre. Je trouve ça incroyable. C'était gênant quand j'étais jeune. Maintenant, je trouve ça cool, bien sûr, parce qu'on finit par comprendre. Mais avec ce mix-là de mon père très, très sévère, très pince sans rire, puis faire des blagues secs, puis ma mère qui dit des affaires qui sont out of this world, je pense que ça a donné un peu le mélange de qui moi puis mes sœurs on est. Tu sais, je suis autant comme bitch, pas une bitch, mais je suis autant comme sec avec quelqu'un, tu sais. La différence entre moi qui est comme, ah, en tout cas, je suis dommée, je dis des niaiseries, puis nan. » puis que quelqu'un heckler que je le ramasse là, c'est comme je peux switcher en deux secondes, tu comprends? Fait que j'ai grandi un peu dans ce style-là. Puis mon père il aimait l'humour, c'était pas sa seule obsession là, tu sais, il aimait toutes sortes d'affaires là, c'était un fan de James Bond, des choses comme ça là. Puis ma mère, elle écoute rien, mais elle aimait beaucoup la lecture, elle nous faisait lire tout le temps, puis je lisais quand j'étais jeune des livres qui étaient drôles, c'est sûr. Je lisais comme Captain Underpants, puis c'est vraiment drôle.
Oh yeah.
Ça, c'était mes livres préférés. Puis je les recommande à n'importe quel jeune, parce que moi, ça m'a décollé sur la lecture. Depuis ce temps-là, je lis tout le temps.
En français ou anglais?
En anglais.
Mes deux fils adorent Captain Underpants.
Ah, c'est bon. C'est tellement drôle, puis ça, tu sais, c'est tellement un bel exemple. Puis je mangeais le Dave Pilkey, qui est l'auteur de Captain Underpants. Je suis une vraie fan. J'aimais pas lire. Je voulais jamais lire. Je voulais pas commencer un livre. Et du moment où j'ai eu Captain Underpants dans mes mains, je pouvais pas arrêter de lire. Je lisais tout le temps. J'ai tous les livres. J'ai pas un livre de lui que j'ai pas. Je les possède tous. Même en tant qu'adulte, j'ai continué de les lire parce que j'étais comme, je vais les finir, rendu là.
Mais c'est intéressant parce que je t'ai entendu parler de ta mère qu'il y avait un fois que tu jouais quelque chose qui peut faire l'autre pleurer. Et c'était généralement toi qui pleurais.
Ah,
des
Noël,
fois, ta mère prenait une vidéo de ça.
Ah, ben tu vois, ça, c'est une situation... ouais, mais tu vois, je suis pas sûre que ça, c'était pas une situation complètement malsaine. Mais quand on était jeune, tu sais, on jouait à Noël, on jouait à qui peut faire pleurer l'autre. Dans le sens de, on jouait pas vraiment un jeu, mais ça se passait. Pas un vrai jeu, là. C'est vraiment que j'ai grandi dans une famille où se taquiner, c'était important pour être pas sensible. Ma mère elle voulait vraiment pas que je sois une personne sensible. Elle voulait pas que je chauffe. Fait qu'elle voulait absolument que j'aie la peau dure pour que je puisse prendre n'importe quel commentaire avec confiance. Fait que quand il me faisait toujours des blagues où il se moquait de moi parce qu'il voulait que j'apprenne à prendre une joke. Parce que j'étais pas capable de prendre une joke. Puis, tu sais, eux autres étaient tous capables de prendre une joke à un certain degré. Quoique, j'ai fait des jokes qui n'ont pas été pris, je te dirais. Puis, à un moment donné, je pleurais pour quelque chose qui était... on pleure jamais pour la raison de la chose, tu sais. On pleure à cause que la chose nous fait filer de quoi qui est plus grand que la chose. Mais c'était une affaire de genre, je voulais une pomme verte. Puis j'ai dit, j'aimerais une pomme... Ma mère m'a demandé, veux-tu une pomme rouge ou une pomme verte? J'ai dit, je veux une pomme verte. Puis ma sœur a dit, moi, je veux une pomme verte. Puis là, elle a dit, ah, ben, il y a juste une pomme verte, ce que je vais donner à sa soeur. Puis là, j'étais comme, je suis jamais la priorité. J'ai demandé quelque chose, tu me l'as demandé, puis tu l'as donné à quelqu'un d'autre, tu comprends? Puis j'ai demandé en premier, mais plus vieille, fait que tu vas y donner, puis je comprenais pas, puis je me suis mis à brailler. Puis ça, là, ça a été depuis toujours. Quand je pleure, les gens, ils rient. J'ai un pleur vraiment drôle. J'haïs ça. C'est vraiment comme... Puis même, tu sais, au département de théâtre, à un moment donné, ils nous donnaient des notes... puis il m'avait dit quelque chose là, comme tu es une femme dans un corps, tu es un enfant dans un corps de femme. Puis là, je sais pas pourquoi ça m'a fait brailler. J'étais comme, j'essaie tellement de prendre les choses au sérieux. Puis là, je pleurais. Puis là, il faisait, il s'est mis à rire. Puis il était comme, je m'excuse, je comprends pas ce qui se passe. Et là, je suis passée dans le bureau de la prochaine prof parce qu'on passait voir chaque prof pour avoir des commentaires. Puis là, elle se met à me donner des commentaires. Puis là, je me rappelle ce qu'il m'a dit dans l'autre affaire. Puis je me remets à brailler. Puis je m'excuse, Marcia. C'est parce qu'il m'a dit ça. Puis là, elle se met à rire. Puis elle fait, elle dit, mon Dieu, c'est extraordinaire. Là, je fais, quoi? Elle dit, t'es comme ma sœur, elle dit, t'as un de ces visages-là où ce que les gens, ils veulent rire quand tu pleures. Elle dit, c'est très rare. Elle dit, c'est impressionnant. Là, je me dis, oh wow, je suis impressionnant.
Je le fais par exprès.
Mais tu sais, elle était comme, c'est une qualité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Elle dit, tu vas être très drôle dans la vie. T'sais. Puis là, je fais, ah, je suis pas drôle.
Mais je pense que ça, c'est la qualité et la raison que j'ai parlé de cette histoire. C'est parce que je pense que, parce que tu fais le rap et tu as un persona, des fois, tu sembles comme, il y a des personnes qui pourraient être peur de Coco. You don't want to mess with her. Mais il y a un autre, dans une autre façon,
t'es
vraiment vulnérable. Je peux voir que les deux, et c'est le evil Coco et Coco qui vend des blagues.
Oui, c'est ça que ces deux personnes-là ont besoin d'exister parce que pour être vulnérable, tu dois être fort. La vulnérabilité, c'est la force. C'est nécessaire parce que tu peux être vulnérable, mais là, après ça, les gens ils pensent qu'ils peuvent piler sur toi. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Je suis assez forte pour te montrer ce qui est là sans que ça me fait mal. C'est comme, like, opening it up, like... Mais les organes sont là, tu pourrais me tuer, mais je vais quand même pas te laisser me tuer.
Mais ça semble que tu as trouvé cette balance Est-ce qu'il y avait des temps que tu n'avais pas cette forte et vulnérabilité?
Ben, tu sais, si ma mère n'avait pas ri, justement, quand je pleurais, parce que j'ai un de ses pleurs, puis qu'elle m'avait pas, tu sais, elle m'avait filmé, parce que c'est trop drôle comment tu pleures, tu sais, faut que je vais te montrer, tu sais, je vais te montrer ça dans le futur, tu vas voir que c'était drôle. Puis elle me l'a jamais montré parce qu'elle a perdu sa caméra. C'est vrai, par contre, même si c'était peut-être pas fait de la façon la plus douce, que ma famille m'a aidé à être moins sensible. Ce qui fait que quand quelqu'un m'attaque sur ma personne, je sais je suis qui. Ça va pas. Il y a des choses qui me blesseront jamais. Il y a des choses qui me blessent parce que c'est des choses qui se disent pas à quelqu'un. Quand j'ai de la peine, là, la réalité, c'est que quelqu'un m'a dit quelque chose que si ça se dit pas, ça parle. Tu sais, comme c'est même pas la vulgarité comme de la chose, c'est juste.
Mais peut-être c'est la même chose que je me souviens que quand mon fils avait comme 6 ans, il pleurait. Ça pourrait m'affecter et ça pourrait me contrôler. La façon qu'il pleurait, je vais changer ce que je fais tout de suite.
Ouais.
Et après, il a pris une classe de impro. Ils ont dit, OK, on va faire une scène où tu vas pleurer. Et c'était exactement la même. Il pleurait la même façon. Et j'étais comme, fuck! Oh, fuck. Ça, c'est... Alors, pour réaliser ça, et c'était peut-être pourquoi tu étais drôle quand tu pleurais aussi, parce que peut-être c'était une façon pour toi d'avoir l'attention de la famille, de tes sœurs, ouais. Et ta place dans la famille était.
Mais moi, ma mère, elle disait, tu fais semblant quand je pleurais. Quand je pleurais, elle disait, tu fais semblant. Puis je pense que probablement à un certain degré, j'avais moins de peine que ce que je pleurais, mettons. Parce que, tu sais, souvent, ils pouvaient me faire rire pour me faire arrêter. Puis tout à coup, je me calmais, puis ça finissait assez rapidement. Je pense que le pleur aurait jamais pu être faux, tout simplement parce que j'avais besoin de ça. Considère que c'est assez pour pleurer d'avoir besoin de cette attention-là. Puis je l'avais besoin.
Dans une façon ou une autre, si on veut jouer quelque chose, on doit être on it. Comme si tu pleures et c'est drôle et tu sais pas ça, les gens vont prendre avantage de toi. Alors peut-être ta mère a fait ça dans une façon de te faire que tu peux utiliser ça quand tu veux. Comme tu pleures, quelqu'un rit, tu dis fuck off, fais pas ça. Mais tu peux aussi jouer avec ça dans une façon qui peut t'aider parce que quand on fait le théâtre, si on fait l'humour, on veut jouer avec les émotions.
Oui, effectivement. Et ça, c'est, puis je pousse la ligne dans plusieurs sens, dans l'optique où j'apporte les gens à la tristesse, j'essaie en tout cas, c'est sûr que ça se fait pas dans toutes parts, mais le théâtre, ça m'amène ce côté-là de pouvoir aller dans d'autres zones d'émotions parce qu'il y a plein de zones d'émotions qui sont connectées au rire. La tristesse est connectée au rire, la colère est connectée au rire. N'importe quelle émotion, si tu la pousses assez loin, va tomber dans la folie. Toutes les émotions sont connectées au rire. Il n'y en a pas une qui l'est pas. Ben, en tout cas, je dis ça. Si vous pouvez en trouver une, dites-moi-la, là, je l'utiliserai plus celle-là. Ou tu sais, comme, je pense n'importe qui peut comprendre que la tristesse est proche de... Parce que qui a pas déjà été dans une église ou un funérail ou quelque chose, puis tu sais que t'es pas supposé rire, puis ça te donne un fou rire, ou ce que t'es juste tellement pas bien, là, puis c'est tellement malaisant que... Puis tout le monde est tellement pas bien qu'à un moment donné, c'est juste comme... Oh my gosh, c'est comme la plus petite chose va venir te faire rire parce que t'es pas supposé rire. C'est ces zones-là que le théâtre me permet d'aller chercher avec toutes ces émotions-là. Je pense que à cause que je m'étais faite beaucoup désensibiliser, quand je suis rentrée en théâtre, j'avais beaucoup de difficultés à m'exprimer parce que j'étais tellement habituée à être genre plus d'émotions puis jamais montrer.
Protéger les émotions. Yeah.
Fait que, tu sais, j'ai passé entre beaucoup d'extrêmes. J'ai passé à l'extrême d'être énormément sensible, tout à coup vraiment tranquille, parce que là, j'ai appris. Là, j'étais comme, OK, là, je peux plus montrer parce que je veux pas me faire attaquer sur mes affaires. Là, j'ai appris, là, faut que je me fasse attaquer. Là, après ça, j'ai fallu réapprendre comment extérioriser mes affaires. À partir de ça, les accentuer. À partir de ça, je suis revenue, j'ai passé à travers de plusieurs cycles. Tu sais, c'est pas acquis, là. C'est pas... j'étais capable de m'exprimer, puis là, tout à coup, on m'apprend maintenant à être tough, puis là, je suis encore capable de m'exprimer. Tu recules, puis t'avances sur toutes sortes d'affaires, fait que t'es tout le temps en train de fignoler les petites choses où c'était comme, OK, j'essaie de prendre ce qu'il y avait de bon de ça, puis pas laisser tout derrière moi, parce que, tu sais, cette sensibilité-là est importante, ça me permet d'être en connexion de mes émotions. Après ça, j'étais plus en connexion avec mes émotions. Fait que, tu sais, il y a des degrés à tout ça, là, c'est sûr que c'est le travail d'une vie, de toute façon. Il y a personne qui va grandir de la façon parfaite pour avoir justement le bon mix presque. Ça arrive presque jamais d'avoir le bon mix de pouvoir se donner tout de suite la première fois que tu es sur scène de même.
Je voulais dire félicitations sur la nomination d'Olivier cette année.
Merci infiniment.
Comment était ce process pour toi de savoir que tu as eu une nomination et tout ça?
On a essayé de soumettre juste pour voir de quoi ça avait de l'air cette année parce que jamais j'avais eu un numéro où on pouvait considérer qu'on pouvait rentrer dans les nominés, là, tu sais, parce que tu soumets ton number comme aux Oscars. Puis y a comme un comité qui regarde les affaires puis les décide. Puis on l'a fait juste pour voir de quoi le processus avait de l'air en n'ayant pas trop d'attente. Puis quand c'est arrivé, j'étais vraiment comme... Je me sentais validée dans le sens où ça faisait... Un bout où je me disais, j'ai-tu ma place? Mais pas dans le sens où j'aurais arrêté de faire de l'humour, mais comme, y a-tu quelqu'un qui va me donner de l'espace? Tu sais, comme, y a-tu un espace pour moi ici? Y a-tu un moyen que je peux avoir ma petite espace, là, de tout cette affaire-là? Puis ça m'a confirmé qu'il y avait de la valeur peut-être plus mainstream, justement, dans ce que je fais, parce que souvent, tu sais, même ma première boîte de gérance, on s'est séparés à un moment donné parce que il voulait que je fasse des affaires qui étaient plus passe-partout. Il voulait que j'arrête de travailler sur des numéros qui ne pouvaient pas pitcher à la télé. Puis j'étais comme, je peux pas, parce que c'est ça qui me fait triper. Puis on s'était dit, OK, il n'y a pas de stress avec ça. Tu sais, on se sépare. Puis ils m'ont dit, là, tu sais, c'est pas une affaire de un gage sur ton talent parce qu'on te trouve très talentueux. C'est juste que, tu sais, il faut qu'on puisse te vendre. Puis j'étais comme, OK. Puis j'ai commencé à me faire gérer par mon ami puis faire ce que je voulais. Puis je me disais, je vais peut-être jamais avoir cet espace-là qui est la mienne, puis qui est pour dire mes affaires. Puis, tu sais, même, honnêtement, je la voudrais même pas, cet espace-là, si je considérais que, genre, il y avait suffisamment de monde qui faisait la bonne affaire. Genre, s'il n'y avait pas autant de gars, de dudes, là, qui faisaient la. Tu sais, combien de fois j'ai été sur un show, puis tout le monde parlait de leur pénis. Comme tout le monde. Fait que si je considérais qu'il y avait suffisamment de diversité, je ferais probablement même pas ce job-là. Mais. Je sentais que j'avais besoin de cet espace-là.
Est-ce que toi et Marianne a décidé que ça, c'était le numéro? Est-ce qu'il y avait un moment où vous deux, vous avez dit, OK,
Marianne, elle n'a pas décidé avec moi quel numéro. Là. J'aurais pu envoyer les poches de pantalon si j'avais voulu, mais les dates, il y en a fait avec les dates. Là. Marianne, elle n'a pas décidé avec moi, mon gérant, puis moi, on a regardé, parce que Marianne, elle a travaillé sur les numbers rendus à la télé parce que on devait travailler avec un auteur à la télé, puis il nous laissait choisir notre auteur. Fait que là, il y avait le gars qui était engagé par la production, ou tu pouvais choisir un auteur. Puis moi, je le trouvais vraiment bon, le gars, mais j'étais comme, si j'ai le droit d'engager qui je veux, je vais engager une femme. Je préfère, tu sais, j'ai toujours préféré communiquer avec des femmes. J'ai pas expliqué des affaires par rapport à l'état féminin. Elle sait, elle a vécu la même affaire que moi. Fait que Marianne, elle a son nom sur le numéro parce qu'elle a travaillé sur le numéro, mais tu sais, puisque ça m'appartient, puis que c'est moi qui ai regardé ça, puis que j'ai parlé avec mon gérant de ça, puis j'ai dit, parce qu'il nous laissait, prendre ce qu'on voulait, mais théoriquement, les poches de pantalon tombaient pas dans les bonnes dates, mais il nous avait dit, si vous voulez l'envoyer, vous pouvez. Puis j'ai dit, je comprends que les poches de pantalon est peut-être meilleure, mais je pensais pas gagner de toute façon, puis je trouvais que ce qui se disait dans le numéro d'EPOG, qui est un numéro qui parle d'identité de genre, je trouvais que c'était plus important.
Alors, tu as dit que tu as pitché l'idée et tu ne savais pas si tu eu une nomination.
Non, on ne savait pas si on a nommé ou pas. C'est sûr qu'ils regardent tous les numéros qui ont été donnés puis ils l'ont pris seul dans les top numéros qui ont été suggérés. Ça aurait pu être l'autre. T'sais. Puis je pense pas que j'aurais gagné peu importe parce que c'est une industrie masculine puis c'est voté par nous. C'est voté par l'industrie, puis il y a plus d'hommes. Puis ce que je fais, ça parle pas nécessairement à beaucoup d'hommes. J'ai eu beaucoup de problèmes avec des productions où je me fais dire, ben tu sais, tu parles de féministe, puis ça me parle pas parce que je comprends pas. Puis je dis, tu sais, l'affaire, c'est que c'est normal. C'est pas ta vie. Je te parle pas à toi. Je parle à l'autre monde, le monde à qui on parle pas d'habitude. Puis les hommes sont jamais exclus, mais il y a des hommes qui se sentent exclus parce que je ne parle pas directement d'eux. Fait que j'ai eu des numbers que j'ai eu tellement d'affaires coupées dedans que c'était même plus le même number parce que je pouvais pas parler de rien qui était ciblé conditions féminines ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est ça. C'était plus important pour moi de dire ça. Puis je vais toujours faire ce choix-là. Parce que cette intégrité-là, au long d'une carrière, là, c'est que les gens, quand ils voient ton nom, ils savent à quoi s'attendre. Il n'y a pas de question de genre, ah, ben, elle va me donner ce que je veux. Non. Tu veux Coco Béliveau, c'est ça. C'est ça que c'est. Si c'est ça que tu veux, c'est ça que t'as. Il n'y a pas de, j'ai pas de demi-mesure pour faire plaisir ou quoi que ce soit. Puis comme je dis, il n'y a pas d'erreur dans une carrière c'est long, tu sais. Si c'est pas là, ça serait un autre number, là. Il n'y a pas de big break, pas big break. Recevoir le trophée ou pas recevoir le trophée, ça change ma vie de peu.
Oui. Est-ce que la nomination a changé ta carrière du tout ou pas vraiment?
Je suis pas sûre que la nomination a changé ma carrière concrètement avec le public, parce que c'est, je pense pas que ça influence vraiment le choix du public, mis à part que quand tu mets ça sur ton show que tu as gagné un Olivier, c'est sûr que c'est un petit peu plus facile de vendre des billets, mais tu sais, il y a pas de choix en ce moment, je peux pas partir en tournée. Mais ça a changé ma vie sûrement dans l'industrie, dans le sens où ça met un seal de respect sur la qualité de ce que tu fais. Toi, tu es capable d'écrire puis de te rendre à ça. Fait que c'est sûr que quand une production t'appelle, il y a un petit peu plus de confiance. Puis avec plus de confiance, ben justement, je vais pouvoir aller plus loin dans mon number la prochaine chose. Fait que plus que je me prouve, plus d'espace que j'ai. Fait que ça, concrètement, ça me donne plus de liberté, oui.
C'était super de parler avec toi, Coco.
C'était le fun, merci. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que la majorité du temps, ce que j'ai, quand je me retrouve dans un domaine masculin, j'essaie de. Il faut que je joue ce jeu-là de force, parce que sinon, je me fais piller dessus. Puis dans le rap, c'est encore plus, parce qu'il y a même des gars qui veulent pas battle des filles parce qu'ils veulent pas insulter des filles. Puis ils veulent pas prendre le risque de se faire péter par une fille parce que ce serait trop gênant pour eux autres, trop un coup sur leur ego. Fait que pour moi, c'est comme de faire ça. J'étais comme, il y a une fille qui va écouter ça, puis elle va se sentir powerful. Fait que j'ai besoin de le faire. Puis je l'ai faite pour la même raison que j'écris des blagues. J'ai senti que j'avais besoin d'être cette personne-là pour moi-même. Fallait que je me prouve de quoi.
Moi, j'ai commencé à Toronto in the 90s. Et je me souviens quand j'étais à Yuck Yuck, je cherchais toujours ma voix quand je voyais les gars sur scène. Et ça, c'était motivant, mais voir l'environnement à ce temps-là, je voulais pas vraiment continuer. Moi, j'ai changé et j'ai commencé à faire des one-woman shows avec le Fringe et faire plus des personnages parce que je pensais pour moi, je voulais pas être dans cet environnement, mais ça a vraiment changé maintenant. Alors,
oui, puis là, il y a beaucoup d'humour alternatif maintenant, puis plus de personnes de la communauté LGBTQ+, qui fait de l'humour, puis ça devient un plus ouvert avec le temps. Mais c'est sûr qu'on est toujours en minorité comparé aux hommes blancs. Il y a toujours plus d'hommes blancs qui font, parce que ça a toujours été eux autres, puis eux autres, ils s'endraident, puis eux autres, ils se donnent des spots. Moi, quand est-ce que je suis sur un show puis qu'il y a plus que moi qui est une fille, ou qu'il y a trois filles, ce qui arrive presque jamais, puis qu'une des filles est pas bonne, je me sens tellement bien parce que je me dis, il y a tellement de gars qui sont pas bons, qui sont sur scène, que quand je vois une fille qui est pas bonne, je me dis, ils sont en train de me donner une chance. Je me sens extasiée. Je suis comme, on a même droit, on a tellement de filles qu'on a même droit à une fille qui est pas bonne, parce que toutes les filles ont besoin d'être bonnes. Les filles qui sont là, ils doivent être bonnes, sinon ils sont plus là. T'es pas bonne.
J'étais à un club où il y avait deux femmes et je pense 10 gars. Le gars qui a le club a dit, oh, on peut pas vous mettre un après l'autre. Et j'étais comme, come on, like, how many times est-ce qu'on voit un show avec 3 gars, 4 gars et après une femme? Mais c'est juste, oh, c'est ridicule.
Quand je suis la seule femme à cette heure, je le dis. Je le dis comme, je dis, eh oui, une femme. Puis là, tout le monde fait yeah. Puis là, je dis, habituez-vous pas, il y en a pas d'autres. Genre, direct sur le top du show, parce que je veux que l'animateur ou le booker se sente mal. Puis je le dis sur scène, parce que sur scène, quand j'ai mon rire, ça confirme au booker qu'il y a un problème. Si moi, je dis au booker qu'il y a un problème, il fait, il y a pas de problème. Si le public rit, il y a un problème. Le public est d'accord avec moi. Fait qu'il faut que je le dise sur scène, malheureusement. J'ai beaucoup plus de courage sur scène aussi parce que je suis backée par le monde qui sont là, qui sont d'accord avec moi. Mais j'ai commencé à le faire parce que je le disais au monde, puis là, c'était comme, ben, on va pas la booker à nous tanner avec ça. Et là, je perdais du booking. Mais quand je le dis sur scène, je reviens, et non seulement je reviens, puis il y a une autre fille qui est sur le show. Quand je reviens, parce qu'ils veulent me montrer qu'il y a une autre fille.
Ça va avoir un impact.
C'est ça. Puis pour moi, c'est la preuve concrète que les choses que tu dis sur scène ont un effet dans le monde. Puis c'est vrai, je veux dire, tu peux jamais dire que tes blagues n'ont pas un effet dans le monde.
C'était super de parler avec toi, Coco. Thanks again.
Thank you so much.
Au revoir. Ciao.
Ciao. Bye.